La vie que déroule les bonnes campagnes, c'est quand même sacrément compliqué. C'est quand même extrêmement compliqué. Et sur n'importe quelle politique, on a toujours énormément d'activités. Donc quand on regarde une politique du point de vue interne, et je m'inscris totalement avec tout ce qui a été dit, et je suis d'accord à peu près sur tout, on peut montrer tout un ensemble d'activités, de plein de choses qui se passent. Et là, quand on regarde la même politique du point de vue externe, soit de la commission elle-même, ou comme chercheur irresponsable que je suis, on est amené à mettre cette politique en perspective par rapport aux autres choses qui se passent en même temps. D'accord ? Donc par exemple, on a eu un très bel exposé sur le SDEC qui a été très fortement poussé par Guigou, par Barnier, au niveau de l'aménagement du territoire. Moi, je fais partie des gens qui, depuis le départ, expliquent que le réseau européen s'en moque totalement, ils laisseront une bande de géographes et d'aménageurs de territoire développer leur truc, ça restera totalement marginal et ça n'intéressera personne. Donc à la fois, on peut dire que ça produit des effets, qu'il y a des réseaux, des connaissances qui ont été précises, et de l'autre, que par rapport à l'ambition de départ, ça n'intéresse quasiment personne en Europe et que ça n'a eu quasiment aucun effet. Alors on peut dire les deux sont vrais. D'accord ? Donc je vais reprendre un peu une partie de cette histoire-là, en essayant de mettre, ce qui est le plus dur à faire, de mettre en perspective la question territoriale dans la dynamique européenne, petit 1. Petit 2, en mettant en évidence ce qui me semble être, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis rien du futur. Moi, je suis content de voir ce qui s'est passé avant. En mettant en évidence ce que j'appellerais la marginalisation systématique de la question territoriale, et pour moi, ça ne commence pas en 2004, mais c'est 97-99 où tout se joue et où la question territoriale est largement marginalisée dans la construction européenne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres agendas qui deviennent beaucoup plus importants. Et donc, l'idée, c'est en vous racontant ensuite un peu plus précisément la question urbaine, qui est un tout petit bout de cet agenda-là, c'est pour vous montrer comment on fait un peu les politiques européennes dans la durée. Donc, ça a aussi pour vocation d'expliquer un peu comment, à certains moments, il faut des bouts de réseau, des bouts de commissaires, des bouts de parlement, des rapports qui vont permettre d'avancer et qui parfois produisent des effets à longue échéance. Donc, c'est ça que j'essaie de faire en même temps. Donc, si c'est pour comprendre mieux, je m'arrête encore plus vite sur ce que j'ai prévu. Donc, ça veut dire qu'en termes de méthode, je suis évidemment dans mon rôle de chercheur, je regarde ça de loin. Je fais des recherches tous les 4-5 ans précisément sur l'Union européenne, puis après j'arrête et je fais autre chose. Donc, j'ai aucune prétention à être un vrai spécialiste totalement. Donc, je ne connais pas tous les détails de qui a écrit le livre vert. Ça, je sais que tous les 4-5 ans, je regarde ça après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'importance de cet enjeu-là dans les questions de la construction européenne en général. Et j'insiste là-dessus parce que nous, Français, on a tendance à croire très très souvent, et c'est ce que nous disent très régulièrement nos amis de la DAPTA ou de la DIAC, ça dépend comment ils s'appellent, ou de la VIV ou d'autres, qui nous disent, voilà, on a un rôle super, on joue un rôle très important, c'est nous qui avons fait ceci, on a poussé telle chose, etc. C'est vrai. Sauf que si au même moment, d'autres pays puissants sont totalement opposés, on n'a rien à faire, on peut faire des rapports, on peut des choses, etc. Mais si les autres sont contre, il ne se passe rien. Donc, les politiques publiques, c'est aussi un rapport de pouvoir. Il y a des groupes d'intérêts qui pèsent plus ou moins sur certaines choses. Donc, mon analyse, que je vais développer un peu brutalement, c'est, en gros, après de l'or, vers 97-98, il y a eu des conflits au sein de la Commission européenne et de l'ensemble de l'Union européenne sur quel est le rôle de la dimension territoriale par rapport à l'élargissement et à la construction du grand marché. Et en gros, les questions territoriales ont perdu 9 à 1 en termes journalistiques. Voilà, c'est à peu près ça, je dirais. Et aujourd'hui, on se pose la question. Donc c'est important parce qu'on a vraiment tendance à. Il faut. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Alors. Pour expliquer ça un peu précisément, je vais prendre l'exemple donc, de la politique urbaine européenne qui montre bien comment se font les politiques urbaines. Une des choses très intéressantes, toutes les choses intéressantes que vous avez dites, c'est l'idée qu'à des moments donnés, les enjeux politiques se jouent sur comment on appelle les choses. Comment on appelle les choses. Alors, l'histoire de la politique européenne, brièvement. D'abord, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc, c'est intéressant parce que c'est une de ces choses que fait l'Union européenne, alors que ce n'est pas dans ses compétences. Donc c'est intéressant pour voir vraiment comment ça peut ou pas apparaître à certains moments donnés. La politique urbaine européenne, ça veut dire trois choses. Et sur 30 ou 40 ans, ces trois choses, parfois c'est l'une qui sera mise en avant, parfois c'est la deuxième, parfois c'est la troisième. Donc il y a toujours un bout de politique urbaine européenne qui traîne, mais parfois on appelle ça environnement. Et dans les années 70, par exemple, on s'est beaucoup préoccupé de questions environnementales. Et donc, politique urbaine, ça voulait dire, dans les grandes villes, il y a plein de pollution, et la qualité de la vie, c'est les années 70, c'est il faut tous aller à la campagne. Donc ça, c'était un enjeu de politique urbaine. Et un deuxième enjeu politique urbaine qu'on trouve toujours, c'est la question de l'exclusion sociale. Et tous les 10 ou 15 ans, on a des grands rapports sur la pauvreté en Europe, la concentration de la pauvreté, et ça se passe dans les villes en général. Donc, on dit qu'on doit avoir une politique urbaine qui s'occupe de l'exclusion sociale. qui a une troisième dimension qu'on trouve régulièrement, qui est la dimension développement économique, compétitivité. Et dans les années 60, les premiers rapports sur la politique urbaine, c'est est-ce que c'est bien ou mal d'avoir une concentration économique dans les villes. Hein, c'était d'ailleurs les géographes français qui écrivaient ça sur les pôles, dans les Pérou, enfin, toutes les vieilles histoires des gens du territoire. C'était la même chose au niveau européen, et les Français étaient assez en pointe sur ces questions-là. Donc c'est toujours un peu étroit. La préhistoire est assez simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'histoire qu'on a depuis très longtemps. Et l'histoire des politiques urbaines, c'est des rapports produits à certains moments au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'une grande partie des politiques européennes, elles commencent soit sous forme de livre vert ou de livre blanc de la Commission, soit sous forme de rapports au Parlement. Et les questions territoriales, en général, elles sont d'abord poussées par des rapports parlementaires qui produisent des effets 4-5 ans plus tard. Donc c'est pour ça que, quand ce matin notre jeune député nous dit « je vais faire un rapport », dans le débat européen, c'est vraiment important. Les députés européens français ont fait extrêmement peu de rapports par rapport aux autres, y compris sur ces questions territoriales depuis longtemps. Ce qui explique aussi que nos conceptions type aménagement au territoire n'ont pas été prises en compte. Si on ne fait pas le boulot, les autres ne le font pas pour nous. Surtout s'ils sont opposés au sujet. Donc là, ça explique aussi ce qui s'est passé sur la moyenne durée. Donc dans ces années 60, le vrai enjeu, c'est la crainte de la désertification rurale. Et puis on parle beaucoup de fin des villes à l'époque. Hein, donc la question urbaine, c'est plutôt des députés qui ont leur territoire et qui vont faire des rapports ou pousser des rapports d'expertise sur ces questions-là, puisque on est vraiment au tout départ et on a très peu de politique régionale à l'époque. Et puis il y a la grande chose qui va commencer à provoquer du changement, c'est les travaux sur la pauvreté. On a au début 70 des grandes enquêtes sur la pauvreté urbaine, notamment avec la désindustrialisation, et on s'aperçoit que il y a deux villes européennes qui sortent comme les villes avec les plus forts taux de pauvreté. Petite question, c'est quoi dans les 70 les deux villes avec les plus forts taux de pauvreté en Europe? Pas loin, pas Liverpool, mais c'était pas très loin.
Manchester.
Hein?
Manchester.
Glasgow, c'était pas loin. Ouais. Glasgow et Naples. Hein. Glasgow et Naples. Et donc c'est autour de cette. Alors je fais aussi une petite question. Vous savez quelle est l'espérance de vie dans les grands quartiers? Quand vous allez à Glasgow, maintenant tout a été refait au centre, hein, ce grand petit urbain. Il y a des grands quartiers d'habitat social à l'écart, 2 km du centre, Whitechapel, etc. Vous savez quelle est l'espérance de vie dans les grands quartiers d'habitat populaire de Glasgow? 55 ans. C'est inférieur à la moyenne irakienne. Vous savez ça, toi, hein. 55 ans, c'est l'espérance de vie. Vous voyez, donc, la pauvreté, c'est de la longue durée pour les villes. Il faut avoir ça en tête. Et donc, dans ces années 70, on va commencer à réfléchir avec beaucoup de rapports, justement, qui sont faits. Et on aura une concurrence entre le groupe environnement qui essaie de pousser les questions urbaines du point de vue de l'environnement, donc en disant que ça appartient déjà à l'environnement. On aura petit à petit les premiers programmes pauvreté 1, 2, 3 dans les 80, et donc on traitera des questions d'exclusion sociale dans les programmes pauvreté. Et puis on aura l'idée que peut-être c'est plutôt une question territoriale d'abord, les questions urbaines, et ça doit plutôt être pris au sein de la politique régionale. Donc on aura un jeu en permanence entre ces trois dimensions-là, et la manière dont on parle de politique urbaine, à quel moment on définit le contenu, etc., c'est dans les rapports. Et donc c'est tout le travail qui est fait par les comités d'experts et par les commissions et par le Parlement qui définit souvent les termes qui seront ensuite repris par les autres. Encore une fois, si on ne s'investit pas en amont, on perd le match avant de commencer. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup pour les questions territoriales françaises. Je donne juste un petit exemple. Je me moque un tout petit peu de la table, ça n'a rien à voir avec les questions. Je me souviens d'une réunion.
La
DIAC, c'est ce qui s'est passé. Et je donne un exemple de comment nous en France on négocie les questions territoriales. Il y a une grande réunion vers 96-97 sur la préparation du programme urbain dont je vais reparler. Vous avez deux jours de réunion. Les Français envoient leurs représentants et quand même on discute sur qu'est-ce que va être la politique urbaine européenne et le nouveau programme urbain. Le jeudi matin, ça se passe un jeudi en le jeudi matin, on envoie quelqu'un à Dadar, qui s'occupe de l'équipe européenne, qui n'y comprend pas grand-chose, qui ne parle pas l'anglais, qui n'a pas lu les rapports avant de venir, et qui défend la politique classique de la data. L'après-midi, la personne avait autre chose à faire à Paris, donc elle rentre à Paris et elle est remplacée par quelqu'un de la DIV, qui défend donc le programme urbain qui doit être comme on fait la politique de la ville en France. Le lendemain matin, il y avait aussi un peu un trou, donc on a envoyé quelqu'un du ministère de l'équipement qui avait proposé une autre version de la politique urbaine française, et puis, finalement, la ministre, qui était Mme Voynet à l'époque, a réussi à se libérer, et le vendredi après-midi, elle arrive et elle dit exactement l'inverse de ce qu'avaient dit les trois administrations précédentes sur ce que devait être le programme urbain. C'est une histoire vraie, bien sûr. Hein. À la surprise générale, les positions françaises n'ont pas été très importantes dans le nouveau programme urbain. Ouais. Donc, c'est comme ça que se font les politiques européennes aussi. Hein. C'est des coalitions, des rapports de pouvoir et de groupes d'intérêt, et c'est aussi tout un travail de coordination en amont. Hein. j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça veut dire aussi les coordinations entre différents niveaux de collectivité locale, entre différents groupes qui peuvent jouer un rôle, donc avec vous qui peuvent jouer un rôle sur ces questions-là. Donc au tout début des 80, on va expérimenter pour voir des opérations intégrées de développement urbain qui vont être expérimentées à Belfast et à Naples, puis ensuite à Bradford, à Virginia, puisque c'est la conséquence des études qui avaient été faites auparavant sur la pauvreté. Donc on aura des premiers programmes urbains un peu intégrés, un peu à la marge, très poussés par le Parlement, surtout pas en parler trop au niveau officiel, pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire éventuellement un jour sur ces questions-là. Et il faut attendre la fin des années 80 pour voir, donc, l'époque de l'or, qui lui très tôt dit, si on fait le grand marché, il faut à la fois qu'on ait un projet territorial et de cohésion sociale. Donc c'est vraiment dans le projet grand marché, de la conception de l'or franco-allemande de l'époque, qu'on va voir cette question qui va vraiment réapparaître. Donc, je vous rappelle qu'on fait l'élargissement, on amène les Espagnols et les Portugais notamment, donc on lance véritablement la grande politique régionale européenne, avec des fonds structurels qui deviennent très importants en termes de budget. Ça a été la grande négociation dans l'élargissement, parce qu'on ouvrait les marchés agricoles, on compense par Felipe González avait négocié une politique de fonds structurels très importante. D'ailleurs, les Espagnols contrôleront la DG Régio pendant très longtemps à la suite de cette chose, donc c'est aussi des choses qui comptent. Hein. L'Espagne rentrant dans la Commission, négocie les fonds structurels nouvelle manière à l'époque, renforcement des normes du FEDER, et donc ce sont les Espagnols qui vont contrôler la DG Régio pendant des années. Hein. Dans ce cadre-là, quel est le problème? C'est que, pour la question urbaine, c'est que les autres grands pays qui bénéficient un peu moins des politiques de fonds structurels, qui sont surtout au sud de l'Europe et à l'Irlande, disent ce serait bien que nous on ait quelque chose quand même. Hein. Donc, même les Britanniques qui sont extrêmement opposés à tout ce qui est politique régionale, n'ont pas du tout la pensée surhabituelle, même les gens du nord de l'Europe, et les Français sont plutôt favorables en général, disent est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit truc dans les fonds structurels, on pourrait quand même profiter à faire un peu plus profiter les villes en déindustrialisation. Donc il y a une espèce de Allemagne, Angleterre, qui acceptent de réfléchir sur la question urbaine, d'autant que le commissaire aux politiques régionales s'appelle Bruce Millan. Comme son nom l'indique, Bruce Millan, il vient de Glasgow. Et comme Bruce Millan vient de Glasgow, il est évidemment très sensible à ces questions de politique urbaine et de politique régionale. Donc, qu'est-ce que fait Bruce Millan? Il fait l'entrepreneur politique, il a commandé plein de rapports à tout un ensemble d'universitaires sur l'environnement et les questions urbaines, l'exclusion sociale et les questions urbaines, et le développement économique et les questions urbaines en Europe. Et vous avez entre 90 et 94, 92, toute une série de rapports et de productions intellectuelles extrêmement fortes qui vont être poussés par la Commission et qui visent à convaincre les États membres que même si ce n'est pas vraiment une Commission, les articles 10 vont faire des choses, on pourrait quand même avoir une espèce de politique urbaine européenne qui n'avouerait pas son nom, mais qui permettrait de faire quand même quelque chose et d'avoir des projets de développement urbain dans quelques quartiers, dans ces villes, du coup, qui étaient les villes du nord de l'Europe. Donc c'est une compensation par rapport à l'importance prise par la DG Régio, le fonds structurel, qui bénéficiait au sud de l'Europe essentiellement, Grèce, Espagne, Portugal et Irlande, dans une large mesure. Donc ça fait partie de ce marchandage entre le nord et le sud de l'Europe. Et Milan réussit à convaincre les Britanniques sur le thème, quand même, les Britanniques vont bénéficier beaucoup de ce programme-là. Donc il lance, comme toujours, un premier truc expérimental, qui s'appelait le Urban Program à l'époque, le Urban Pilot Project, et en gros c'est fait pour Londres. Et comme il ne peut pas faire que Londres, ça fait faire un peu des ordres, c'est fait pour convaincre les Anglais de soutenir cette politique urbaine. Un jour il se promène, la légende veut qu'il est en vacances en Provence et que le maire de Marseille l'a convaincu qu'on pourrait expérimenter aussi à Marseille. Donc ce sera Londres et Marseille à l'origine. Hein. Londres et Marseille, la comparaison entre les deux n'a aucun sens, c'est purement des réseaux à un moment donné qui vont expérimenter, qui vont lancer toute une série de projets pilotes qui auront à vos questions, à essayer d'expérimenter une politique urbaine européenne où l'Union européenne finance, à partir de financement du FEDER, une partie de programmes assez classiques de renouvellement physique, d'innovation, de reformation sur le marché du travail. Et puis ça va créer une assez forte dynamique. Il y aura plusieurs dizaines de projets qui vont se lancer. Du coup, il y a une espèce de dynamique qui se crée au sein de la Commission. La Commission y est très favorable. Les pays qui sont les plus défavorables à une politique urbaine bénéficient de ces projets, donc se disent que finalement ce n'est pas une mauvaise idée. Les Britanniques, qui sont toujours les plus opposés, expérimentent à l'époque une nouvelle politique territoriale qui s'appelle les City Challenge, et ils se disent finalement, si on soutient des projets urbains européens, ça financera notre politique nationale. Donc dans une logique purement d'intérêt, les Britanniques tout d'un coup deviennent des très forts supporters d'une politique urbaine européenne, parce que c'est une façon de récupérer des fonds pour financer leurs propres projets. Alors finalement, en France, on ne pensait pas du tout que ça financerait les contrats de ville, je vous rassure. Jamais cette idée ne nous a traversé l'esprit. Donc, la politique urbaine européenne réussit à prendre son envol avec ce qu'on appelle les programmes urbains, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, qui est une idée de programme intégré de développement urbain, innovant, avec des approches très bottom-up de différents projets, qui vont être organisés dans une centaine de villes dans l'ensemble du territoire, avec l'idée que cette politique urbaine européenne, c'est aussi une manière de s'occuper à la fois d'environnement, d'exclusion sociale et de développement économique. Et donc ces programmes urbains vont jouer un rôle très, très clé, vont mobiliser tout un ensemble de réseaux qui vont se créer autour de ça. Une politique publique, c'est la territorialité. Donc vous avez Eurocité, par exemple, qui est très important. On a des centaines de réseaux de collectivités locales qui vont pousser pour ce territoire. On a aussi le comité des régions qui monte en puissance à l'époque. Donc on a une espèce d'âge d'or, si je puis dire, de la question territoriale en Europe, où on voit la DG Régio qui joue un rôle important, même si la DG Régio est très réservée sur la question urbaine. Parce que la DG Régio se dit, si on fait pour monter en puissance la question urbaine, alors on aura moins d'argent pour les régions, notamment pour le Sud, et comme c'est quand même les Espagnols qui peuvent comprendre la DG Régio, ils sont plutôt opposés à l'unité urbaine de la DG Régio, qui est un peu extraterritoriale pendant quelques années. Donc les conflits, ils sont, vous voyez, c'est vraiment des conflits d'intérêts et d'organisation des priorités politiques des États membres qui se retrouvent dans des arbitrages politiques ensuite. Et donc on a pendant 4 ou 5 ans ce programme urbain, tout un ensemble de rapports, la montée en puissance de la DG Régio, on pense à l'élargissement, on a vraiment poussé la fin de la période de l'or. C'est vraiment un moment où on écrit tous plein de choses, plein de mes collègues et moi-même, sur le développement de la politique régionale, de la politique urbaine, de cette question de cohésion territoriale, certains imaginent donc un aménagement du territoire européen. Il y a vraiment toute une dynamique d'ensemble, au Parlement, à la Commission, au comité des régions, tous ces réseaux européens, pour avoir un renforcement de moyenne durée de cette question territoriale dans les politiques européennes. Et en 1990-99, on a des rapports urbains très importants, on a le SDEC qui est lancé. C'est vraiment le moment où on pense que, ça y est, cette fois-ci, la Commission va vraiment être sérieuse et l'Union européenne va se construire par les territoires avec les questions de légitimité politique, que vous avez très justement évoquées, en se disant qu'en développant les politiques territoriales, on renforcera aussi l'intérêt des citoyens. C'était une idée très claire pendant les projets de l'or, l'Union et tout ça. Tout ça ne va absolument pas se passer. De temps en temps, les politiques publiques, ça s'institutionnalise. On en fait un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis au bout de 30 ans, ça fait quelque chose d'important. Et bien, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et donc, moi, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il y a eu un virage extrêmement important de l'Union européenne depuis 1997-1999, qu'on peut appeler de différentes manières. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis ce temps-là, la question territoriale est en relatif déclin. Elle ne disparaît pas, on a vu tout ce qui se passe, mais elle est peu importante par rapport à l'ensemble de l'agenda européen. L'Europe s'est réorganisée autour de deux priorités fondamentales, réussir l'élargissement, qui est très important, et l'agenda de Lisbonne sur la compétitivité économique. Plus, évidemment, la question de la Constitution qu'a évoquée Renaud ce matin. Vous avez évoqué très justement le fait que, vers 1998-1999, on pensait que le comité des régions allait jouer un rôle très important dans la Convention, que Barnier allait réussir à pousser tout un ensemble de choses. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucun représentant du comité des régions dans le comité qui est Giscard d'Estaing, qui a fait le draft de ce qui sera plus tard le traité de Lisbonne. Le comité des régions a été totalement écarté. C'est un indicateur. Deuxième indicateur, cette DG Régio qui devient très puissante dans ces années-là. Lorsqu'on fait l'élargissement, il y a un arbitrage qui est très clair dans une politique. Et je caricature un tout petit peu. Vous avez compris mon mode de fonctionnement par rapport à vous, c'est pour vous faire réagir également. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, les grands pays ont décidé, comme l'a dit Renaud ce matin, qu'il n'y aurait pas d'augmentation du budget européen. Il y a un verrou budgétaire massif. Lorsque le budget de l'Europe, c'est 1% du PIB, quand vous agrégez plein de pays pauvres de orientables de l'Europe et que vous n'augmentez pas le budget, ça veut dire que votre priorité d'investissement sur les questions territoriales, elles sont en train de décliner. En plus, les grands pays ont parfaitement compris. Si le critère de base, c'est le PIB par habitant, l'euro d'Asie déteste le critère européen. Je vous le dis, si un jour vous le revoyez. Si c'est ça le critère, alors ça veut dire que plus vous mettez des pays avec un niveau de vie inférieur à ceux de l'Europe de l'Ouest, moins les grands pays auront de l'argent. Donc évidemment, les grands pays d'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne massivement, et la France très ambiguë, c'est-à-dire que la France, elle est bon regard. Si on regarde la data, c'était très favorable à cette politique. Si on regarde le ministère des Finances, Bercy a voté en touche, et donc systématiquement saboté tous les efforts pour avoir une position très favorable de la France sur ces questions-là. Donc, dans ces cadres-là, l'argent ira à l'aide de l'Europe, donc il faut que ça devienne moins important, puisqu'on ne va plus en bénéficier. Et donc les grands pays ont abandonné en masse campagne, si je veux dire, tout le monde, en disant, puisqu'on ne va plus en bénéficier, on ne va pas augmenter les budgets. Donc on va laisser ce qu'il y a, on sait que ça va partir massivement du côté de l'Europe orientale, et puisqu'on n'en bénéficie plus, ce n'est plus une priorité politique. Ce qui est important, c'est de faire l'élargissement, et le reste est moins important. Alors il y a un bon indicateur, vous savez, on a des gens de base, on recherche, on regarde des trucs, et un truc qui marche assez bien, c'est où vont les élites pour repérer pour les gens. Vous vous rappelez, vous avez dit ça quand j'ai parlé de la décentralisation. Le jour où on a repéré que les polytechniciens n'allaient plus dans les DDE, on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Les ingénieurs des ponts n'y allaient plus, on s'est dit, ah, là il se passe quelque chose en termes de rapport de pouvoir en France. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que tous les jeunes gens brillants qui étaient dans la DG Régio, la grande partie d'entre eux, ils sont tous partis à la DG Élargissement. Alors on s'est dit, c'est marrant, les jeunes gens qui font carrière à l'Union Européenne, ils sont plus en DG Régio, ils partent à l'élargissement. Souvent, c'est quand même un bon indicateur d'un changement de rapport de pouvoir. Et je trouve que, depuis ce temps-là, j'ai pas vu de... Mais quand je compare le profil des gens dans la DG Concurrence et la DG Régio, et tout ça en tout honneur, hein, je vois bien quand même que c'est pas les mêmes. Voilà, je vois bien que c'est pas les mêmes, et dans ce que c'est qu'une bonne trajectoire de carrière pour des fonctionnaires européens, c'est pas pareil, vous voyez, sur la trajectoire de carrière. Donc ce qui veut dire que la DG Régio était une DG centrale de l'Union Européenne dans les années 90, et qu'elle est devenue une DG de second rang, ce qui est tout à fait honorable, hein. Mais ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu un écart après 98-99, et ça a des conséquences sur ce qui est porté politiquement ensuite. Donc c'est bien 98-99 le tournant. Troisième indicateur important, c'est que, comme il l'avait très bien dit, ce qui est important pour le front européen, c'est que régulièrement, il y a des conflits entre les différentes directions sur qu'est-ce qui va être mon territoire, qu'est-ce qui va être prioritaire. Et on a eu une très grande bagarre entre 96 et 98. Hein, nous, on sait en sociaux, quand on étudie les trucs, on a des conflits. Et la bagarre, c'était DG Concurrence, aide d'État versus DG Région. C'était sur les nouveaux règlements du FEDER. Avec la question, jusqu'à quelle mesure, si on fait des politiques régionales, territoriales, on peut avoir des distorsions aux aides d'État, aux politiques de concurrence, pour aider les territoires en difficulté. La DG Région est partie en disant c'est évident que c'est très important. Et c'est vrai que la DG Région, aidée par certains États, commençait de plus en plus à déguiser ses aides d'État sous le chapeau politique régionale. Pour reconnaître que ce n'était pas totalement aberrant. La DG Concurrence a, une fois encore, gagné très 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 largement. Et qu'en fait, la DG Concurrence a imposé ses règles au règlement du FEDER, de la politique régionale, depuis ce temps-là, d'où place-based, ça veut quand même dire on fait des petits trucs, quoi. C'est ça que ça veut dire. Enfin, quand même, ça veut dire qu'on va dans l'expérimental et on limite au maximum la dépense avec des petites choses et non pas des principes transversaux. C'est ça que ça veut dire. Donc la DG Concurrence a gagné extrêmement largement le match contre la DG Région, si j'ose dire. Et dans cette période 98-99, là encore, c'est bien la logique du grand marché et de la concurrence qui devient centrale sur l'ensemble de la construction européenne. Et à partir de ce moment-là, elle va être accentuée par Barroso. Ou non, c'est une logique de la Commission. Alors, mes collègues avaient ça, le tournant néolibéral, je ne sais même pas à peine de parler de ça. Il y a eu une conception de l'Europe qui est la conception plutôt portée par les Britanniques. Et je rappelle que Kinnock fait la réforme de la Commission en étant numéro 2 de la Commission. Donc une réforme où les politiques publiques, c'est plutôt des objets de réglementation, de régulation, Mark Thatcher demain, c'est ça qu'on va expliquer, et qu'à l'inverse, des conceptions d'intervention davantage portées, comme la PAC ou comme la politique régionale, doivent devenir secondaires. Et c'est bien ce tournant qui se passe vers 99 et qui va être très fortement accentué par les commissions Barroso. Et Renaud de Roux a dit très bien ce matin, après de l'or, les États membres, notamment la Grande-Bretagne, qui revient dans le jeu avec Tony Blair, décident d'avoir des présidents de commission qui jouent un rôle qui n'est plus l'autonomie qu'ils avaient précédemment. Et donc les États allemands ont phagocyté, d'une certaine manière, la capacité de la commission à jouer un rôle interventionniste, notamment dans ce sujet-là. Et je rappelle que les opposants classiques à toute dimension territoriale de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, parce que les Länder veulent leur prérogative, les petits pays du nord de l'Europe, et les Britanniques qui sont systématiquement hostiles à ce genre de projet. Et à l'inverse, c'est plutôt les Italiens, les Espagnols et les Français qui portent classiquement, même si de temps en temps on a des Finlandais ou d'autres qui viennent jouer avec nous, qui portent cette affaire-là. Donc si je raconte l'histoire comme un Danois, c'est qu'on a réussi finalement à marginaliser la politique territoriale européenne. Voilà. On a mis du temps, mais on a réussi. Et l'Union européenne doit d'abord être un grand marché, faire l'élargissement, et puis après mettre en œuvre le traité de Lisbonne. Et l'Union européenne, ce qui est quand même très important quand on regarde ce tournant autour de 96-99, notamment la stratégie de Lisbonne, c'est bien aussi une stratégie qui met l'accent sur la question de compétitivité, et dans un sens assez restrictif malgré tout. C'est quand même très influencé par la troisième voie. Rappelez-vous l'époque Blair-Schröder, avec une conception de l'économie, du territoire, du développement de la compétitivité, qui est, en gros, il y a la mondialisation, il faut s'adapter le plus vite possible, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc toutes les vieilles politiques publiques, vous avez employé le terme tout à l'heure très justement, les vieilles politiques comme la PAC ou la politique régionale doivent devenir secondaires. Et ce qui vaut pour la politique régionale vaut pour la PAC. Et de certaine manière, ce qu'a fait la France, c'est défendre la PAC, et elle n'a pas pu défendre autant qu'elle aurait souhaité la politique régionale. Il ne faut pas tout défendre en même temps. D'accord ? Et c'est bien ça, et ça a été très bien dit, qui est en jeu pour la prochaine fois. Et si le deuxième pilier de la PAC se maintient ou se développe, c'est parce qu'il est lié à l'agenda développement durable, hein, qui est donc la nouvelle version. Donc c'est comme ça que je verrai les choses. Ça s'est vu très clairement sur la politique urbaine. Les deux programmes urbains ont été extrêmement intéressants. Ça a produit plein de projets, plein de choses très intéressantes sur la frontière. Ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé. Alors là, je vais développer 3 secondes le nouveau concept à la mode dans les politiques européennes, c'est le mainstreaming. J'espère que vous êtes tous au courant. C'est quand même très important. Le mainstreaming, c'est un super truc pour les politiques publiques. Ça veut dire la chose suivante. Vous prenez un enjeu transversal très, 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 très important. Les femmes, l'environnement, l'urbain. Vous voyez ? Et vous dites, voilà, les politiques sectorielles, c'est un peu limité. C'est des enjeux tellement importants qu'il faut que ça irrigue l'ensemble des politiques sectorielles. Donc, au lieu d'avoir des grandes politiques sectorielles avec des directions, des clientèles, des groupes, il est beaucoup plus puissant d'irriguer l'ensemble des politiques européennes avec un principe général qui oblige une transformation de fond de l'ensemble des politiques sectorielles. Exemple, l'environnement, on doit avoir un principe de développement durable mainstreaming sur l'ensemble des politiques européennes, et donc tout le monde va prendre en compte les priorités de développement durable dans ces politiques sectorielles. Pour les femmes, on ne va pas faire une grande direction sur les femmes, tout ça. Non, on va mettre le principe du gender doit être dans l'ensemble des politiques européennes. Les questions urbaines sont tellement importantes, on ne va plus avoir des programmes particuliers ou sectoriels, on va faire le mainstreaming urbain des politiques régionales et des politiques européennes, donc toutes les politiques seront fortement orientées en bénéfice des villes. Donc sur le papier, super. Et quand vous lisez les rapports de la Commission, notamment sur la politique urbaine, puisque c'est ce qui m'intéresse ici, vous voyez des rapports très importants sur, vous voyez combien la question urbaine est centrale dans les politiques régionales, et on vous donne plein de chiffres, on vous donne plein d'exemples. Vous voyez à quel point. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On travaille tous dans l'organisation. On est tous pareils, on a plein de boulot, plein de choses à faire, c'est compliqué, on manque de temps, on manque de ressources. Chaque fois qu'on vous impose une nouvelle priorité très importante, et encore plus importante que celle d'avant, mais un peu moins que celle de demain, la question c'est quand même comment faire pour résoudre le problème le plus rapidement possible, sans changer trop ce qu'on essaye de faire quand même. Donc comment ont réagi les directions sectorielles de la Commission européenne, et la direction concurrence? Ils ont dit, ah oui, bon, gender c'est super important, vraiment. Et c'est très bien qu'on ne dépense pas trop d'argent sur une vraie direction sectorielle. Donc on va tous mettre, et d'ailleurs pour les femmes on a fait ça, et ça s'appelle faire... De mettre, on ressort des choses qu'on faisait quand même, on appelle ça action prioritaire pour les femmes, on met ça dans tous les documents, on arrive, on bouge un peu quelques budgets à la marge, et on montre qu'on a profondément transformé la politique de la concurrence en faveur des femmes, sans rien changer sur le fond et sur les programmes réellement mis en œuvre. On a fait exactement la même chose pour les politiques urbaines. C'est-à-dire que, effectivement, les politiques régionales, forcément, ont un peu d'argent dépensé dans les villes, mais au lieu d'avoir des programmes particuliers intégrés, on a mis une couleur urbaine avec un beau bandeau sur tout un ensemble de rapports et de politiques mises en œuvre. J'exagère un peu en caricature tout petit peu, mais pas tellement en soi urbain. Et donc, vous avez une mainstreaming urbaine, donc l'urbain est encore plus important en politique européenne, sauf qu'il n'y a plus de programme, bien sûr, et qu'en fait, ça veut simplement dire que la politique urbaine a été totalement marginalisée et que c'est devenu un petit bout qui irrigue un peu un certain nombre de programmes de la politique régionale. Donc, mainstreaming, je vous le dis parce que c'est en train d'arriver dans le débat français et qu'on va nous proposer très très bientôt des mainstreaming de ceci et de cela. Sachez que ça veut dire élégante mise à l'écart. Alors, c'est pas ce qu'on pensait au début, hein, c'est un résultat de recherche, c'est pas un truc normatif. Nous-mêmes chercheurs, beaucoup d'entre nous ont trouvé que c'était formidable, une très bonne idée. Donc, les chercheurs, ce sont ceux qui se sont le plus trompés là-dessus. Hein, donc, je vous dis, et c'est quand on regarde 10 ans plus tard ce qui se passe, qu'on s'aperçoit que c'est souvent ce qui se produit. Voilà ce qui se produit. Donc, le jour où on vous propose, là où vous êtes, mainstreaming de telle ou telle chose, sachez que ça veut dire élégante mise à l'écart. Vous aurez appris quelque chose pendant ce séminaire, pendant 2 jours. Vous verrez que ça vous est utile dans les années qui viennent, parce que c'est... Bien sûr, on va faire ça pour discuter, parce que c'est l'autre côté de la pièce par rapport à ce qu'il y a, à ce qu'il y Donc je conclue là-dessus pour dire petit 1, aujourd'hui il y a, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, aujourd'hui il y a vraiment une nouvelle phase qui s'ouvre, on prépare l'après 2013, et l'enjeu aujourd'hui, c'est clairement la première priorité, c'est le côté climatique, développement durable, qui devient absolument central dans les politiques européennes. Et on pourrait très bien imaginer qu'avec cet agenda-là, comme vous l'avez très justement dit, on puisse voir réémerger tout un ensemble de questions territoriales qui puissent être agrégées et mises en place par rapport à ça. Mais ce ne sera certainement pas l'aménagement du territoire. Ça, par contre, ça, j'en suis assez fort. La deuxième chose que je veux insister, c'est que les intérêts en faveur de ces dimensions territoriales, c'est de plus en plus, enfin depuis très longtemps, toutes ces associations européennes de collectivités locales, de régions, du CECRI, dont on a parlé tout à l'heure, et progressivement, effectivement, ils s'institutionnalisent et ils pèsent de plus en plus lourd. Donc sur la moyenne durée, ils jouent un rôle relativement important. Sur les 15 ans qui viennent de, les 12 ans qui viennent de s'écouler, ils ont quand même été très largement mis à l'écart. C'est-à-dire qu'ils ont produit des rapports, ils ont joué un rôle. Le comité des régions, c'est Michel Delbar était là, il serait en désaccord total avec moi, j'ai déjà discuté avec lui, mais le comité des régions, par rapport à ce qu'il aurait dû devenir tel qu'on l'imaginait il y a 15 ans, c'est devenu un acteur secondaire. Et il y a plein d'acteurs secondaires dans la commission, dans le jeu européen. Les intérêts puissants, que ce soit les intérêts économiques ou un certain nombre d'États, notamment beaucoup de petits États, se sont opposés très fortement. On dit de toute façon, si on fait une politique territoriale, à un moment donné, les grands États vont nous piquer les sous. Donc, mieux vaut limiter les dépenses. C'est quand même une logique qu'on a énormément entendue dans toute une période et dans tout ce qui a été négocié dans le cas actuel. On a aussi le jeu un peu plus compliqué des Espagnols, qui sont, c'est un peu comme la Catalogne, n'est-ce pas ? Vous savez, la Catalogne est extrêmement favorable aux redistributions et aux politiques régionales européennes tant qu'ils en bénéficiaient, mais ils sont totalement opposés aux redistributions en Espagne. Ça, par contre, il n'en est pas question, parce que là, c'est nous les riches pour les pauvres Espagnols, ça, il n'est pas question. Par contre, des Européens, c'est très important tant qu'ils en bénéficiaient. L'Espagne joue un peu un rôle de même chose. Les États membres, clairement mobilisés par ces questions territoriales européennes et favorables à la politique régionale, il n'y en a quand même pas des centaines. Et je constate aujourd'hui qu'une grande partie des pays d'Europe orientale ont tendance à dire on s'est fait avoir, on a rejoint l'Union européenne en pensant qu'il y aurait une grande politique des fonds structurels dont on bénéficierait, on en a bénéficié, vous avez réduit les budgets pour y rentrer, on s'est quand même fait avoir, dans ces conditions, autant aller franchement sur le jeu du marché puisque nos coûts sont moins élevés, et puis tant pis pour la politique régionale. Alors ça dépend des pays, c'est variable, c'est pas tout le monde pareil, mais c'est quand même des discours qu'on entend assez systématiquement. En d'autres termes, je tente de dire aujourd'hui que, un, la question se repose à nouveau, et c'est ça qui est intéressant dans le débat, c'est que ça ressort, parce que tous les 10-15 ans, on redit, bon, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec ça ? Et on dit que le travail qui est en train d'être fait ici, et qui va être fait désormais au Parlement européen, par la jeune garde de députés, va proposer des choses. Il faut aussi être conscient que la commission Barroso, pour l'essentiel, il sera totalement opposé. Il sera très largement opposé. La commission Barroso et Barroso lui-même, franchement, ils se moquent assez largement de ces questions territoriales. Il faut quand même avoir ça en tête dans l'organisation des pouvoirs et des dynamiques qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on a d'abord la crise économique qui est arrivée, qui change quelques paramètres. Et les pays qui étaient les plus opposés, en disant toujours ces politiques, c'est des vieilles politiques ringardes, abandonnées tout, sont un peu moins en position donneur de leçons. Je pense notamment à Gordon Brown en Grande-Bretagne, qui pendant des années a expliqué que l'Europe c'était vraiment une bande de nuls, qui s'était pas assez réformée. Aujourd'hui, il est un peu moins clair sur ce qu'il dit sur ce sujet-là. Donc, les oppositions sont un peu moins claires, que la crise redistribue les cartes, et que l'agenda climatique ouvre d'énormes perspectives et possibilités de réorganiser un agenda territorial, inégalité, climat. Donc, c'est une époque post-sapide, si je veux dire, qui pourrait s'ouvrir maintenant. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.